Les bords de la mer Baltique à Helsinki évoquent la guerre froide. Mais Donald Trump et Vladimir Poutine veulent afficher cette fois leur complicité. Au menu de leur déjeuner à huis clos, refaire le monde entre meilleurs ennemis.
On va discuter de beaucoup de thématiques. Du commerce, de la défense, du nucléaire, des missiles. On va parler de la Chine aussi. Les relations entre nos deux pays n'étaient pas bonnes ces dernières années. Mais je pense qu'on va arriver à construire une relation exceptionnelle avec vous, je l'espère.
Parmi les autres thèmes abordés, la Syrie. La Russie soutient Bachar el-Assad. Les États-Unis, eux, n'ont pas hésité à bombarder des installations du régime. Ce qui aurait pu être un sujet de discorde est devenu, comme par magie, un point de convergence.
Les troupes russes et américaines ont collaboré avec succès sur le terrain. La communication entre elles a permis d'éviter des collisions dans les airs et d'arrêter des terroristes dans le sud-ouest de la Syrie.
Un ton cordial, même pour évoquer les sujets qui fâchent le plus, comme l'Iran. C'est avec beaucoup de précautions que Vladimir Poutine évoque le dossier.
Nous avons fait part de notre préoccupation concernant le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Je souhaiterais rappeler que grâce à cet accord, l'Iran est devenu le pays le plus contrôlé au monde. L'Agence de l'énergie atomique a la possibilité de s'assurer du caractère pacifique de ses activités nucléaires.
Comme pour l'Iran, l'annexion de la Crimée semble aussi avoir été reléguée au simple rang de sujet de désaccord. Les deux leaders ont davantage mis l'accent sur ce qui les rassemble. Alors les convergences entre Poutine et Trump sont-elles plus fortes que leurs divergences? Leur rapprochement va-t-il se faire au détriment de l'Europe?
Bonsoir à tous les trois, bienvenue, merci de nous avoir rejoints. À mes côtés, Frédéric Ancel, vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po, vous êtes l'auteur de mon dictionnaire géopolitique qui est paru à l'automne dernier au PUF. Et alors selon vous, Frédéric Ancel, si on se place du point de vue russe, il y a un jeu à trois en quelque sorte, en tout cas entre la Chine, les États-Unis et la Russie. Et si Vladimir Poutine ne parvient pas à avancer sur certains dossiers avec Donald Trump, il courrait le risque, d'après vous, de se retrouver pris en tenaille, en fait, que la Russie soit prise en tenaille entre les États-Unis et la Chine, qui jouent aussi un rôle important dans cette nouvelle donne géopolitique dont on va parler. À vos côtés, bonsoir, Célia Bonin, vous êtes chercheur invité à la Brookings Institution, vous êtes spécialiste des États-Unis et des relations transatlantiques. Alors selon vous, Vladimir Poutine et Donald Trump sont complices de fait, en tout cas parce qu'ils cherchent tous les deux à affaiblir les organisations multilatérales en général et plus particulièrement l'Union européenne. Et à vos côtés, bonsoir Claude Blanche-Maison, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie de 2000 à 2004 et vous avez publié un livre qui s'intitule « Vivre avec Poutine » qui est paru en février dernier aux éditions Temporis. Et alors, d'après vous, Donald Trump et Vladimir Poutine peuvent tout à fait s'entendre sur certains dossiers, dites-vous, parce que Poutine a toujours le souhait d'essayer de rééquilibrer les forces mondiales, l'équilibre mondial, en tout cas évidemment en faveur de la Russie et donc des intérêts de son propre pays. Tout de suite, pour rentrer dans ce débat, Caroline, vous avez une question en 28 secondes.
Je vais faire très vite, mais c'est vrai que la Coupe du Monde vient de s'achever, je crois que vous le savez tous. Elle avait lieu en Russie, alors Claude Blanche-Maison, est-ce que Vladimir Poutine est arrivé à ce sommet d'Helsinki auréolé d'une victoire portée par la Coupe du Monde, c'est renforcée par l'organisation de cette Coupe du Monde?
Oui, je crois qu'il faut le reconnaître, c'est pas très étonnant. D'ailleurs, le président de la FIFA disait hier soir que c'était la meilleure Coupe du Monde. Vécu. Alors c'était peut-être pour faire un compliment au président du pays.
C'est la première fois que ce président de la FIFA en vit une.
Est-ce qu'on peut pas distinguer la scène internationale de la scène intérieure, puisqu'on sait que début juillet, en plein mondial, il avait, Vladimir Poutine, subi une baisse brutale de sa cote de popularité du fait de la réforme des retraites qu'il a voulu faire passer.
Alors c'est vrai que la population russe a mal pris cette concomitance. C'est vrai aussi qu'il fallait réformer le régime des retraites qui n'avait jamais été réformé depuis l'Union soviétique.
Vladimir Poutine, il a un avantage évidemment par rapport à Donald Trump, c'est qu'il est en place, il est au pouvoir depuis beaucoup plus longtemps que son homologue américain, Vincent.
Depuis 18 ans, et il a vu passer 4 présidents des États-Unis.
Deux fois deux.
Il y a eu 2 fois 2 ou 4 à 2.
Et c'est votre chiffre du jour.
Aussi, c'est match du jour. Donc il y a eu Bill Clinton, il y a eu George Bush Jr., il y a Barack Obama, et il y a maintenant Donald Trump. Alors Célia Belin, est-ce qu'il a enfin trouvé quelqu'un avec qui s'entendre? Parce que les 3 autres, il y a eu des tentatives de concorde et puis ça n'a jamais abouti. Est-ce que cette fois-ci, il a trouvé le président à sa portée?
En fait, depuis la fin de la guerre froide, tous les présidents américains espèrent toujours renouer avec la Russie. On dit toujours la Russie est un grand pays qui a ses intérêts. Nous devons collaborer. Et en fait, on l'a bien vu, en particulier les deux derniers, George W. Bush, Barack Obama. Barack Obama avait lancé son reset, porté par Hillary Clinton, qui était sa secrétaire d'État. Et puis, progressivement, les intérêts géopolitiques et géostratégiques de la Russie arrivent en conflit avec ceux des Américains. Il s'avère être un acteur difficile, avec lequel il est dur de traiter. Donc là, de nouveau, on est dans une dynamique où c'est le président américain qui porte cet espoir de rapprochement avec le président russe. La grande différence, c'est que cette fois, ce n'est pas quelque chose qui est appuyé ni par son administration, ni par le Congrès. Et donc, c'est quelque chose qu'il porte pratiquement seul.
Mais est-ce qu'on peut dire, Frédéric Ancel, qu'ils ont la même vision du monde? Est-ce qu'ils sont rapprochés idéologiquement
de l'Occident? Oui. Est-ce qu'ils ont la même vision de l'Occident? Je ne crois pas qu'ils aient la même vision de l'Occident. Et je vais vous dire, je ne suis pas certain qu'ils aient une vision particulière de ce qu'on appelle l'Occident. Je suis même tout à fait convaincu du contraire. D'ailleurs, Poutine, ainsi que tous ses prédécesseurs, voyaient, alors on a évoqué la Chine, voient le monde occidental comme partie prenante de la Russie et vice-versa, mais une grande partie de la Russie, pas seulement sur le plan géographique, sur le plan culturel et économique maintenant en Sibérie orientale, fait partie intégrante de l'Asie. Quant à Trump, c'est pas un grand théoricien des relations internationales quand même. Donc l'Occident, selon Trump, pour l'instant, c'est quand même essentiellement...
Et du point de vue des valeurs, il n'y a pas une convergence en termes de défense des valeurs traditionnelles d'un Occident chrétien, blanc, face aussi aux questions migratoires?
Alors en tout cas, c'est pas ce que pensent les ultra-conservateurs aux États-Unis qui n'ont pas tous voté, beaucoup sont abstenus lors des dernières élections. Les évangéliques essayent de courtiser Trump se sont abstenus aussi. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas un pilier d'église. Et puis pour obtenir une femme, il faut lui mettre la main. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas considéré comme un chrétien traditionnaliste. D'accord. Quant à Poutine, là aussi, les questions. L'église en Russie, l'église orthodoxe en Russie, joue un rôle très important. C'est une religion nationale, en quelque sorte, l'orthodoxie. Mais regardez ce qui se passe dans le Caucase, notamment dans le Nord-Caucase, avec ces répliques musulmanes qui sont dirigées, et notamment en Tchétchénie, par de véritables islamistes, mis au pouvoir par qui? Bien évidemment, par Vladimir Poutine.
Alors, Claude Blanche-Maison, au-delà de la vision, est-ce qu'ils n'ont pas la même pratique diplomatique? C'est-à-dire un peu brutale, avec des coups d'éclat?
Au-delà de la pratique diplomatique, je crois qu'ils ont la même technique, en effet, c'est-à-dire qu'ils ne croient qu'au rapport de force, l'un comme l'autre. Et ça, c'est un point commun très important. Ils ne croient qu'au rapport de force. Et deuxièmement, ils ne respectent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le droit international. C'est pas tout à fait nécessaire. Encore une fois, on se réfère au rapport de force. Et c'est pourquoi Trump considère que traiter d'État à État de façon bilatérale, c'est beaucoup mieux que de recourir au droit international et aux organisations multilatérales. Poutine est un peu différent. Et en tout cas, à l'époque où j'étais ambassadeur à Moscou, il avait de très bons rapports avec l'Union européenne.
C'était de 2000 à 2004.
Oui, alors il n'aimait pas. Donc il a peut-être fait une politique expérimentale à ce moment-là, qui était une politique pro-occidentale.
Oui, il avait l'air pour modèle.
Notamment en se méfiant de l'OTAN, mais en courtisant l'Union européenne. Et à l'époque, on a même été jusqu'à envisager, avec son accord, un espace économique commun entre l'Union européenne et la Russie.
Alors la question. Vous rencontriez à l'époque, ça se passait bien.
Ah, tout à fait. Ouais. Et il était tout à fait pour ces liens qui allaient conduire à un espace économique commun, ce qui est très fort, plus d'autres espaces économiques communs, des espaces communs de la connaissance et de la sécurité. Alors, ensuite, effectivement, les choses ont dérapé vers un nationalisme exacerbé qui lui ont permis d'être élu avec une très large majorité. La question est de savoir si son parcours est linéaire dans ce sens ou s'il est cyclique. Après tout, je suis optimiste et peut-être reviendra-t-il aux vertus de l'Europe.
Vous dites que la Russie a besoin de l'Union européenne. Alors revenons au couple Donald Trump-Vladimir Poutine, parce qu'il y a un fantôme qui plane un peu quand même sur les relations de ce couple. Caroline, c'est un certain Robert Mueller. Mais qui est ce Robert Mueller?
Eh bien, il était d'abord directeur du FBI sous les présidences de George W. Bush et de Barack Obama, et il a été nommé récemment procureur spécial dans l'enquête sur les ingérences de la Russie dans la campagne américaine de 2016. En gros, son équipe cherche à établir si Moscou a effectivement interféré dans l'élection présidentielle pour aider Donald Trump à battre Hillary Clinton, s'il y a eu collusion de l'équipe de campagne de Donald Trump avec la Russie et si Donald Trump a tenté de faire obstacle aux investigations. Il y a déjà eu plusieurs inculpations des personnes, notamment dans l'entourage de Donald Trump. Et puis vendredi dernier, donc à 3 jours du sommet d'Helsinki, le procureur Mueller a lâché une bombe sur la rencontre Trump-Poutine en faisant inculper 12 officiers du renseignement militaire russe qui l'accuse d'avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate, d'avoir volé des documents internes et d'avoir organisé leur publication. Trump, depuis Londres vendredi, avait promis de poser fermement la question du piratage des élections à son homologue russe. Ce matin, il a tweeté « Nos relations avec la Russie n'ont jamais été aussi mauvaises en raison d'années de stupidité de la part des États-Unis et maintenant de la chasse aux sorcières ». Il semblerait que l'un et l'autre aient parlé de non-ingérence tant du côté russe que du côté américain. Ils sont d'accord sur cette question. Est-ce que c'est un non-sujet au final ou est-ce qu'il y a vraiment un fantôme qui plane de façon dangereuse? Célia Belin.
C'est un énorme sujet, évidemment, des relations américano-russes. Simplement, Donald Trump ne veut pas le traiter. Et il ne veut pas le traiter parce qu'il considère que ça remet en question sa propre élection et que c'est un moyen de le délégitimer et de montrer qu'il n'a pas vraiment gagné face à Hillary Clinton. Et d'ailleurs, dans la conférence de presse suite au sommet de Helsinki, dès que ce sujet a été abordé, il est revenu sur la problématique de la collusion. Non, ma campagne n'a pas travaillé avec les Russes pour me faire élire, qui est sa seule problématique. Et donc, en réalité, il néglige complètement les interventions, l'ingérence russe et les attaques cyber russes et même les guerres de désinformation ou de manipulation de l'information que mène la Russie parce que en filigrane il y lit quelque part un problème sur son élection.
Pour protéger son propre pouvoir à lui parce qu'il se sent menacé par cette enquête-là évidemment.
Absolument, mais du coup il ne traite absolument pas le problème principal, ce qui lui vaut en fait des réprimandes de la part de certains dans son propre parti. Il y a un certain nombre de républicains aujourd'hui qui se sont insurgés de cette position et qui ont, au fil d'un tweet, dit non, la Russie nous mène une véritable guerre de l'information et il faut le reconnaître et il faut...
Mais Vladimir Poutine se montre, Claude Blanche-Maison, très coopératif puisque Vladimir Poutine a proposé à Trump d'interroger les Russes inculpés. Alors, je ne sais pas bien ce que ça veut dire encore.
Oui, mais... enfin, dans le cadre d'un accord pour lutter contre la criminalité et sous réserve de réciprocité. Donc je pense que les extraditions ne sont pas prêtes d'arriver. Mais il y a eu d'autres points de convergence que celui-là, en effet, entre Trump et Poutine pendant leur conversation, en effet.
Alors pendant que Donald Trump et Vladimir Poutine donc, se faisaient des mamours, en quelque sorte, à Helsinki aujourd'hui, eh bien, l'Union européenne, elle, rencontrait, les représentants de l'Union européenne, rencontraient la Chine, Vincent.
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a essayé de donner de la voix dans ce grand désordre du monde. On va le regarder, c'était à Pékin, et on en parle après.
Aujourd'hui, le jour même où l'Europe rencontre la Chine à Pékin, le président américain Trump et le président russe Poutine parleront à Helsinki. Nous sommes tous conscients du fait que l'architecture du monde change sous nos yeux et que c'est de notre responsabilité commune qu'elle change pour le meilleur.
Frédéric Ancel, est-ce qu'on peut imaginer une alliance sino-européenne face à une alliance russo-américaine? Ce qui exigerait d'actualiser votre livre, peut-être.
Sur un jeu de plateau, oui. Globalement, après, il y a un certain nombre de réalités, et les réalités des relations économiques, je ne parle même pas de la diplomatie, entre les États-Unis et la Chine, ne sont absolument pas... il n'est absolument pas possible de le balayer d'un revers de main. Vous avez là, si vous voulez, le premier volume d'échanges aujourd'hui au monde, hein, qui a dépassé le volume d'échanges entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout à l'heure, j'évoquais les relations entre la Russie et la Chine. Aujourd'hui, en Sibérie orientale, vous avez 6-7 millions de Russes et vous avez déjà une dizaine de millions de Chinois. Et le commerce est tenu par les Chinois. Donc, je pense qu'on ne peut pas imaginer cette alliance qui serait une espèce d'alliance de revers contre, finalement, les deux autres larrons en foire. En revanche, l'Union européenne essaye de maintenir une visibilité, pas seulement sur le plan économique et commercial, mais sur le plan politique, parce que là, le sommet russo-américain, il n'était pas à vocation économique, et surtout à vocation politique aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant, parce que l'Union européenne, manifestement, en tout cas aux yeux de Trump, ça c'est sûr, il l'a dit lui-même d'ailleurs, hein, avec des mots toujours très forts et très outranciers, c'est son adversaire, voire son ennemi. Donc l'Union européenne a un rôle à jouer, pour le coup.
Claude Blanche-Maison, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, parce qu'il y a des dossiers quand même qui opposent a priori les États-Unis et la Russie, par exemple le dossier ukrainien, l'annexion de la Crimée, est-ce qu'on peut imaginer que Donald Trump, finalement, professe la levée des sanctions et se mette d'accord avec Vladimir Poutine sur le dos de l'Union européenne?
Sur les sanctions, il est coincé, puisque la levée des sanctions dépend exclusivement du Congrès aujourd'hui. Donc même s'il en avait envie...
Le problème de Donald Trump, ce sont les institutions américaines.
Voilà.
Il fait une grande différence
avec Vladimir Poutine. Il ne peut pas le faire, puisque le Congrès s'est emparé du contrôle des sanctions qui qu'il a décidé d'un étreint de sanctions et seul le Congrès pourrait les lever et il n'en a aucune intention. La situation est très différente dans l'Union européenne puisque, comme vous le savez, les sanctions sont renouvelées tous les 6 mois par un vote à l'unanimité ou plutôt un consensus entre les États membres. Et dans le fond, il suffirait que 1, 2 ou 3 États membres un peu décidés, en décembre par exemple, disent « mais nous n'avons pas envie de renouveler les sanctions vis-à-vis de la Russie pour que les sanctions de l'Union européenne tombent en tout ou en partie ». Ce serait probablement en partie. Alors les Italiens se sont un peu risqués sur ce sentier avant le dernier Conseil européen, et puis bien entendu, ils n'ont pas poursuivi parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu, notamment sur le plan économique entre la Commission européenne et l'Italie. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, l'Italie, la Grèce, la Slovaquie, probablement la Hongrie, peuvent dire nous ne sommes pas en faveur du renouvellement des sanctions, et le jour où ceci se passera, eh bien, une partie des sanctions économiques tombera.
Il y a l'Ukraine, mais il y a aussi le Moyen-Orient sur lequel Donald Trump et Vladimir Poutine ne sont pas d'accord. Est-ce qu'on peut imaginer une convergence de vues, et notamment en sacrifiant du côté russe l'Iran? Ce sont des choses que l'on entend. Est-ce que ça vous paraît possible?
Alors, ce qu'on entend, c'est que Trump a manifesté publiquement son désir de désengager les troupes américaines de Syrie à de multiples reprises. Le président français et d'autres l'ont convaincu qu'il fallait rester, en tout cas pour le moment, soutenu par le secrétaire à la Défense James Mattis. Mais on sait que cela peut venir et donc que les Russes pourraient avoir un intérêt à voir les Américains partir. Et donc on se posait des questions sur le sommet de Helsinki, à savoir si Trump allait échanger ce départ des troupes américaines contre une limitation de l'influence iranienne par les Russes en Syrie. Mais en réalité, on n'est pas du tout sûr que les Russes aient la capacité de faire ça. Même s'ils s'y engageaient, déjà, est-ce qu'ils le feraient? Et ensuite, est-ce qu'ils en ont réellement la capacité? On sait que les milices iraniennes et plus généralement l'appareil d'État iranien est très, très impliqué en Syrie. Et donc, il n'y a pas de raison de croire qu'il puisse y avoir ce genre de décision prise.
Comme on ne peut pas imaginer à l'inverse que Vladimir Poutine convainque Donald Trump de revenir dans l'accord nucléaire iranien. C'est quelque chose d'utopique, ça.
Ça me paraît totalement utopique. Bah, Emmanuel Macron a essayé, hein, pour le coup. Non,
il a fait des efforts. Mais...
Il a fait des efforts, il a proposé un contre-plan, enfin, dans le cadre du plan déjà existant. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. J'ajoute que pendant la conférence de presse, un homme a été mentionné, un pays a été mentionné, c'est Netanyahou et Israël. Et Israël joue un rôle évidemment important en Syrie. Parce qu'il est frontalier de la Syrie, et le cauchemar de Netanyahou et des Israéliens, c'est l'avancée précisément des Iraniens, notamment de l'armée iranienne, pas seulement des milices chiites, mais de l'avancée de l'Iran. Et ces derniers mois, Poutine a semblé avoir trouvé un accord en vertu duquel les Iraniens ne s'approchaient pas d'une ligne allant de 40 à 50 km de la frontière israélienne, enfin du plateau du Golan, en échange de quoi les Israéliens n'intervenaient plus sur le sol syrien. Pour l'instant, en tout cas, ça semble tenir.
Et est-ce qu'on peut imaginer, Claude Blanche-Maison, que la Russie revienne dans le G8? On sait que la Russie en a été exclue après la crise ukrainienne, l'annexion de la Crimée. Donald Trump a déjà évoqué cette hypothèse.
Je ne suis pas sûr que Vladimir Poutine soit très intéressé par un retour pur et simple dans le G8. D'abord, il faut regarder l'histoire. Le G7, il a été créé pour réunir les responsables des plus grandes économies du monde. Aujourd'hui, ça ne représente plus du tout les plus grandes économies du monde, puisque la Chine n'y est pas. Et peut-être faudra-t-il réfléchir à une refondation de l'idée de départ, c'est-à-dire les responsables des plus grandes économies du monde, qui ont en effet des responsabilités majeures dans l'évolution de l'économie mondiale. Il faudrait sans doute incorporer la Chine, l'Inde, et dans ce cadre-là, faire revenir la Russie.
Vincent.
C'est Liebelin, oui. Dans la diplomatie de Trump, il rencontre des grands chefs d'État, il voit Kim Jong-un, il voit Vladimir Poutine, il y a des grandes déclarations, on dit que c'est formidable, et il n'y a souvent rien de très concret. Est-ce que finalement la géopolitique américaine change beaucoup avec lui, ou il y a une apparence de transformation pour une ligne beaucoup plus classique?
Bien, tout dépend de quel sujet on parle. En réalité, il y a quelques grandes lignes diplomatiques qui sont vraiment tenues par le Pentagone, par exemple. Ce sont les interventions en Afrique aux côtés des Français. C'est encore pour le moment les troupes en Syrie pour lutter contre Daesh. C'est un ensemble de choses dont évidemment la politique de sanctions anti-russes tenue par le Congrès. Donc les institutions américaines tiennent. Simplement, la diplomatie du spectacle que l'on voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renforce les autoritaires, elle renforce un certain modèle politique. Vous aviez posé la question de savoir s'il y avait un accord de valeur entre ces deux hommes. Je ne crois pas qu'il y ait un accord de valeur, mais il y a un accord d'idéologie. Une idéologie autour d'un nationalisme souverainiste, anti-européen, profondément anti-européen. Il faut comprendre que Donald Trump a dit à de multiples reprises que l'Union européenne était un ennemi. Et là, il trouve un partenaire chez Poutine.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus nous